Radio Kapi. Oh, Kapi.
Début ce mercredi 7 mai à la Cité du Vatican du conclave pour élire le 267e pape. 17 jours après la mort du pape François, au moins 132 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans devront se réunir pour élire son successeur à la tête de l'Église catholique romaine. Bientôt, de l'eau potable sera disponible pour les habitants des quartiers cités belges et résidentiels de la ville de Beni, au nord Kivu. L'hôpital général de référence de Beni veut mettre fin au calvaire des habitants de ces deux quartiers avec de l'eau de ses forages. Le président de la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Vincent de Paul de Kinshasa est l'invité de ce journal. Hervé Kabuya va parler des attentes des fidèles catholiques d'Afrique et de la RDC du nouveau pape qui devra être élu dans les prochains jours. Bonjour à tous. Au micro, Noéla Luzitu Kabambi. Le conclave pour élire le 267e pape débute ce mercredi à la Cité du Vatican. Au moins 132 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans se réuniront à huis clos dans la chapelle Sixtine pour désigner le nouveau pape, 17 jours après la mort du pape François. Hier mardi, la veille du début du conclave, le Collège des cardinaux a mis l'accent sur les qualités importantes pour un futur pape qui doit incarner l'image d'un bon berger, d'un pasteur, d'une église samaritaine. D'autres détails avec vous, Blaise Makassi.
Dans l'après-midi d'hier mardi, veille du début du conclave, 73 cardinaux, dont 130 cardinaux électeurs, ont participé à la 12e congrégation générale, explique le directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Les discussions étaient notamment axées sur les réformes initiées par le pape François, qui doivent être poursuivies. Cas de la législation sur les abus, les questions économiques, la curie romaine, la synodalité, le travail pour la paix et la protection de la création. Ce mercredi matin, rappelle la même source, sera célébré une messe. Ensuite, à 15h45, heure de Rome, les cardinaux seront transférés de la maison Sainte-Marthe au palais apostolique pour l'entrée en conclave. Lundi, une centaine d'officiels et des membres du personnel du conclave, ecclésiastiques et laïcs, ont prêté le serment du secret. Pour que l'élection du nouveau souverain pontife soit valable, son nom doit faire l'objet d'au moins 2/3 de voix comptées sur la base des électeurs présents et votants. Les résultats des scrutins sont, comme le veut la tradition, rendus visibles par la couleur de la fumée qui s'échappe de la cheminée installée sur le toit de la chapelle Sixtine. La fumée noire signale que la majorité de 2/3 n'a pas été atteinte. La fumée blanche signale l'élection d'un nouveau pape.
Au nord Kivu, dans la ville de Beni, les habitants des quartiers cités belges et résidentiels de la commune de Bungulu vont bientôt être servis en eau potable grâce à l'hôpital général de référence de Beni. Ces deux quartiers de la ville font en effet face depuis longtemps à un problème récurrent de manque d'eau potable. Le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni indique que cette action rentre dans le cadre de l'assistance à cette population meurtrie par des années d'insécurité à travers la desserte en eau potable. Docteur Jérémy Mouindo précise que le forage de cette structure sanitaire dispose d'une capacité lui permettant de desservir une grande partie de la ville en eau potable. Il le dit au micro de Marc Marofimbo.
Vous êtes en train de voir des gros projets se réaliser ici à faveur de cette communauté, longtemps meurtrie par la guerre. Donc vous avez vu aussi les forages qui est en cours de construction. Donc non seulement que ce forage va améliorer la desserte en eau dans l'hôpital, mais aussi les deux quartiers riverains, c'est notamment les quartiers cités belges et les résidentiels, les quartiers résidentiels. Les habitants de ces deux quartiers, ils vont avoir désormais dans quelques jours, dans quelques matins, ils auront de l'eau à partir de ces projets de forage qui est en cours de construction.
Dans le territoire de Lubero, toujours au nord Kivu, la zone de santé de Biena manque de sages-femmes depuis bientôt une année. C'est le docteur Demetrio Tembo Kipisa, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Mamboa, qui l'a révélé lundi à l'occasion de la journée internationale des sages-femmes. Il précise que sa structure ne compte à ce jour que 7 sages-femmes, alors qu'il en faudrait beaucoup plus. Il exhorte les parents à orienter leurs enfants dans des écoles qui forment des sages-femmes pour relever ce défi. Docteur Demetrio Tembo explique dans cet extrait recueilli par André Kiting.
Au niveau de la zone de santé, il y a des sages-femmes et particulièrement au niveau de l'hôpital, nous en avons 7. Donc nous avons 7 femmes sages. Le message que je peux lancer au niveau de la communauté, c'est d'abord demander à nos mamans, à nos parents d'amener leurs enfants à la formation de cette orientation qui semble être nouvelle et que beaucoup de gens ne connaissent pas. Vous savez, dans l'ancien temps, être infirmier, la plupart des gens suivaient l'orientation générale. Mais maintenant, il y a des spécialités. Une personne qui est formée uniquement pour le suivi de la femme enceinte, le suivi de l'accouchement, et après 3 ans de formation à l'Institut supérieur ou bien à l'ITEM, 4 ans, il est capable de prendre sérieusement les femmes enceintes. Donc, j'encourage nos parents à amener les enfants dans des écoles ou dans des filières de sages-femmes.
Les malades lépreux internés à l'hôpital de la Rive, ici à Kinshasa, ont reçu hier mardi des médicaments et autres produits pour le soin des plaies et la prévention des infections. Ce don est une initiative de l'ASBL Lembwetete, fondée par Mgr Edouard-Marie Mounounou. La visite a débuté par une célébration eucharistique présidée par l'abbé Eric Bouanga, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa et aumônier au sein de cet établissement médical. Plus de détails avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
Commentant les dons de l'ASBL Lembwetete, l'abbé Eric Bouanga a salué cette initiative en faveur des personnes souffrant de la lèpre. Il a souligné, je cite, « Ces gestes de charité est une manière de rendre hommage au fait Mgr Edouard-Marie Mounounou qui, de son vivant, a toujours été aux côtés des plus démunis et des pauvres. » Fin de citation. Le médecin directeur de l'hôpital de la Rive, Dr Papi Mambo, a salué cette action, soulignant qu'elle répond à des besoins urgents de cet établissement médical qui accueille non seulement les lépreux, mais également les patients en ambulatoire. Il a rassuré que ces produits seront utilisés de manière efficace au profit des patients qui, immédiatement après la distribution, ont chacun reçu un paquet de soins pour leur traitement régulier. De son côté, la coordonnatrice de l'ASBL Lembwetete, Ghislaine Koumanissa, a rappelé à l'assistance l'engagement indéfectible de cette association en faveur des plus démunis, conformément à la vision prônée par son fondateur, Mgr Edouard-Marie Mounounou Kassiala.
Et puis, en marge de la 15e édition de la Semaine africaine de la vaccination, le programme élargi de vaccination PEV en RDC a réuni les professionnels des médias le lundi 5 mai à Kinshasa. Il s'agit d'une rencontre stratégique pour impliquer davantage la presse dans la sensibilisation autour de la vaccination dans une campagne qui se tient jusqu'au 30 mai à travers le pays. David Olela, point focal communication au sein de PEV, revient sur l'importance de ce cadre d'échange au micro de Kelvin Baeni.
En fait, ce briefing, c'était pour nous un moment idéal de partager les différentes informations avec les professionnels de médias pour leur donner la bonne information à relayer pendant cette période de mise en œuvre de la Semaine africaine de vaccination. Comme vous le savez, c'est la 15e édition que nous célébrons et il était crucial pour nous de pouvoir échanger avec les professionnels de médias car ce sont eux qui vont véhiculer l'information qui aura à toucher nos communautés. Toutes les provinces sont concernées. Nous nous faisons la promotion de la vaccination des routines. Et là, il y a un calendrier vaccinal qui est en vigueur en RDC. Et cette calendrier vaccinal, que les mamans appellent communément Kilo, a 9 rendez-vous. Et dans ces 9 rendez-vous, nous avions plusieurs antigènes ou vaccins, le maladie contre laquelle on vaccine. Il y a contre la poliomyélite et contre la tuberculose. Il y a la diphtérie, contre la tétanos, la coqueluche, l'hépatite virale B. Nous vaccinons aussi contre la méningite, la pneumocoque, ainsi que le diarrhée à rotavirus.
L'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias, thème de l'atelier organisé par l'UNESCO et l'Union nationale de la presse du Congo hier mardi au siège de l'UNESCO ici à Kinshasa. Il a été question de discuter avec les journalistes sur l'impact de l'intelligence artificielle dans la liberté de la presse et de rappeler l'importance de sensibiliser les journalistes à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés. On écoute à ce sujet Dr Isaias Barito, représentant pays de l'UNESCO, au micro d'Étienne Lissoumbo.
L'intelligence artificielle peut amener une contribution importante au travail des journalistes. Il peut faciliter le travail des journalistes dans la préparation des contenus, dans l'analyse des données et dans plusieurs activités menées par les journalistes. On veut d'abord passer ce message. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là pour cet atelier de renforcement de capacités, pour que les journalistes congolais puissent bien comprendre le potentiel de l'intelligence artificielle pour mieux faire leur travail et puissent en profiter. Qu'il y a aussi des défis liée à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a la fausse information, il y a le deepfake, et il y a beaucoup de mauvaises choses qui peuvent être faites avec l'intelligence artificielle. Mais comme tout dans la vie, il y a deux côtés. Il y a le bon côté, il y a aussi le mauvais côté. Nous, nous sommes là pour bien comprendre le bon côté et le potentiel, les bonnes choses qu'on peut faire. Il faut aussi qu'on comprenne le mauvais côté pour qu'on puisse prendre les dispositions nécessaires pour faire un bon travail à l'ère de l'intelligence artificielle.
Retour au Nord Kivu. Plus d'une dizaine de jeunes filles et garçons d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, ont été sensibilisés lundi aux droits et devoirs de la jeune fille, mais aussi à la lutte contre la désinformation, la mésinformation et la manipulation. Selon Grace Katia Vingi, premier vice-président du Parlement des jeunes du territoire de Beni, cette sensibilisation est le prolongement des activités du mois de mars dédiées à la promotion des droits des femmes et des jeunes filles. L'objectif de cette activité est d'emmener les jeunes à prendre conscience de leur potentialité afin d'assurer leur autonomisation. Grace Katia Vingi explique au téléphone de Guylaine Kassassia.
Le 8 mars dernier, le Parlement des jeunes avait organisé une activité qui visait beaucoup plus les jeunes filles. Dans le souci de valoriser la force juvénile féminine, de lutter contre la désinformation, la mésinformation et la manipulation juvénile, de contribuer à l'autonomisation de la jeune femme et fille à vie de lutter contre les antivaleurs. Maintenant, nous sommes dans le cadre des suivis pour pérenniser les actions que nous avons menées pour cette journée-là du 8 mars. Nous sommes aussi en de renforcer la capacité de nos jeunes filles par rapport à la citoyenneté active. Il est question de montrer aux jeunes leurs droits et leurs devoirs dans la communauté où elles font membre. Nous avons dit qu'à partir des potentiels que chaque entité a, la jeune fille peut entreprendre une activité d'autonomie. Financement pour lutter contre certains antivaleurs qui peuvent s'observer de la communauté, étant donné que notre zone est déchirée par des groupes milices, les sécurités qui gangrènent dans la zone. Mais si on a une vie d'autodépendance, on ne pourrait pas adhérer à ce genre de mouvement.
Notez que des sensibilisations similaires ont déjà été organisées à Maïmoya et Mbao, toujours dans le territoire de Beni. Restons au Nord Kivu, où la MONUSCO a lancé hier mardi dans le territoire de Beni les travaux de construction d'un bâtiment qui abritera les services du genre, famille et enfants, mais aussi la division des affaires sociales ainsi que le bureau de la jeunesse. Ce projet a un impact rapide d'un montant de 47 860 $ américains va durer 3 mois avec une main-d'œuvre locale. Il prévoit également l'équipement du bâtiment, notamment une salle de réunion pouvant accueillir plus de 30 personnes. Pour Bernadette Kaindo Mbamu Liakoki, chef du bureau genre, famille et enfants à Beni Territoire, cette initiative vient répondre au problème des infrastructures et devra permettre d'améliorer l'accueil et la qualité du service offert aux usagers. Bernadette Kaindo est au micro de Guylaine Kassassia.
Le projet est longtemps attendu, un rêve qui se concrétise aujourd'hui. Ça fait notre joie et notre fierté parce que ça va nous donner une disponibilité de travail dans le bon environnement. Ça nous donne aussi le courage, ça nous fera aussi vraiment la motivation d'être avec les visiteurs dans notre bureau. Nous remercions vivement notre partenaire MONUSCO, qui a vraiment songé pour nous et surtout pour la promotion de la femme et la participation à la bonne gouvernance.
Actualité internationale.
Au Mali, les partis politiques appellent à un nouveau rassemblement le vendredi 9 mai à Bamako pour protester contre leur dissolution programmée, mais aussi pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Un rassemblement auquel ne pourra pas participer Mamadou Traoré, président du parti Alternative pour le Mali et membre de la coalition d'opposition Jigiya Koura Espérance Nouvelle. Il a été arrêté le 24 avril, incarcéré et sera jugé le 12 juin prochain pour notamment atteinte au crédit de l'État. Mamadou Traoré est poursuivi en raison des propos critiques tenus dans une interview diffusé le 22 avril sur les réseaux sociaux.
L'invité.
Alors que le monde catholique attend avec ferveur l'élection du nouveau souverain pontife, les regards se retournent aussi vers l'Afrique. Avec cette question, pourrait-on assister à l'élection d'un pape africain maintenant ? Quels sont les espoirs, les attentes, voire les rêves des fidèles congolais face à cette transition spirituelle majeure au sein de l'Église catholique? Pour en parler, nous recevons Hervé Kabuya. Il est le président de la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Vincent de Paul à Kinshasa. Il va nous éclairer sur ce qu'ils espèrent du futur successeur du pape François. Hervé Kabuya s'entretient avec Greta Lulendo.
Monsieur Hervé Kabuya, bonjour.
Bonjour.
Selon vous, quel profil devrait avoir le prochain pape pour répondre aux attentes spécifiques des fidèles catholiques en RDC?
Bon, merci pour cette belle question. Comme catholique, nous sommes d'abord au regret de perdre un pape, François, qui a été pour nous un modèle d'intégration, qui a fait avancer l'Église. Alors son successeur doit continuer dans cette lignée-là. Et le profil qu'il doit assurer pour l'Église est celui de la continuité, c'est-à-dire permettre à l'Église synodale, où nous avons plus de responsabilités, où cette Église garantit la paix, garantit les valeurs qui existent, et cette Église qui a toujours été aux côtés de nos populations.
Et quel rôle attendez-vous du futur pape dans la promotion de la paix et de la justice dans des pays comme la RDC, encore marqués par les conflits et les inégalités?
Lors de sa visite, la visite du pape François en RDC, il a martelé sur la paix. Et il y a une phrase qui me revient, il avait dit « Il faut que les puissances qui ont les mains sur la RDC puissent faire quitter les mains afin que la RDC puisse évoluer ». Nous voyons les guerres, surtout à l'est du pays. Nous pensons que le pape sera pour nous un point focal afin que sa voix puisse être portée pour consolider la paix, garantir la paix et la tranquillité sans lesquelles il n'y aura pas de développement dans notre pays, la RDC.
Comment le nouveau pape pourrait-il mieux répondre aux aspirations des jeunes Congolais, notamment en matière d'éducation, d'emploi et de foi?
D'abord, par rapport à l'éducation, c'est la base de tout développement. Le pape doit amener l'Église, qui est un partenaire important par rapport à l'éducation. Vous vous rappellerez que la grande partie des jeunes congolais sont éduqués par des écoles conventionnées catholiques, où on estime qu'il y a la meilleure instruction. Je pense qu'on doit consolider cela, on doit encore davantage construire les écoles. Et par rapport à la foi, il faut amener le jeune à respecter et à intégrer les valeurs chrétiennes qui existent déjà. Et je pense que si ce pape a un esprit jeune comme l'avait été le pape François, les jeunes congolais seront un socle de développement pour ce pays parce que c'est l'avenir et le devenir de notre pays.
Est-ce que vous voudriez que le pape soit un Africain ou un Européen? Vous avez de préférences sur ces points?
L'élection du pape, c'est la direction du Saint-Esprit. Le chrétien, je suis Africain, si aujourd'hui nous avons un pape africain, ça serait un honneur pour nous. Mais je pense, et en étant chrétien catholique, l'élection du pape est guidée par la puissance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit veut que ce pape-là soit africain, gloire à Dieu. Si le Saint-Esprit décide qu'il soit d'un autre continent ou d'un autre pays, je pense qu'on va s'incliner parce que selon nous, les cardinaux qui sont en conclave, ils sont en train de réfléchir et de prier pour que le Saint-Esprit puisse donner la personne qui va amener au mieux l'Église à la conversion, les chrétiens, à ressembler plus au Christ. Donc, laissons le Saint-Esprit agir.
Monsieur Hervé Kabuya, je vous dis merci.
Merci, madame.
Merci à vous aussi qui avez bien voulu suivre ce journal mis en onde par Debse Vita, un journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi sous la coordination de Jude Mystère Bilanda.